Et le journal de la rédaction, c'est avec vous Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Justement, élections européennes, participation à la hausse, nette hausse, estimation à 17h, plus de 43% contre 35% il y a 5 ans. Commentaire et première analyse dans ce journal d'Yves Bardon d'Ipsos. Trois Français condamnés à mort par la justice irakienne pour appartenance à l'organisation État islamique, précision d'Olivier Poujade. Les autorités turques laissent Abdullah Öcalan prendre la parole. Le leader du PKK était soumis à un isolement total depuis des années. Il a appelé ce matin les milliers de prisonniers qui protestaient contre ces conditions de détention à cesser leur grève de la faim. Correspondance d'Istanbul, Dan Andlauer. En visite à Bagdad, le ministre iranien des Affaires étrangères propose un pacte de non-agression aux États du Golfe. Décryptage de l'anthropologue Houcham Daoud. Enfin, nous serions à la veille d'une alliance qui déboucherait sur un géant de l'automobile mondiale, une alliance Renault-Fiat-Chrysler. Une décision de justice qui risque fort d'alimenter un débat à vif. Faut-il ou non rapatrier les ressortissants français accusés par la justice irakienne d'avoir combattu dans les rangs de l'organisation État islamique ? Ce matin, un haut magistrat irakien a prononcé la condamnation à mort de trois Français pour appartenance à Daesh. Olivier Poujade.
Aucun ressortissant français n'avait jusqu'ici écopé de la peine capitale. L'an dernier, deux djihadistes françaises ont été condamnés à la prison à perpétuité pour s'être engagés dans le djihad en Irak et au Levant. Les trois hommes condamnés aujourd'hui, trois trentenaires, ont été reconnus coupables d'avoir joué un rôle actif au sein de l'organisation État islamique. Kevin Gonneau, un proche de Fabien Klein, a toujours reconnu qu'il s'était engagé, mais il nie avoir combattu dans les rangs djihadistes. Léonard Lopez a rejoint l'Irak en 2015 après avoir contribué à l'organisation de cellules de radicalisation sur le territoire français. Le troisième homme, Salim Machou, s'est engagé, lui, dans une katiba de combattants étrangers, responsable de nombreuses attaques en Irak et en Syrie. Ces trois hommes ont 30 jours pour faire appel de cette décision. Le gouvernement français, lui, a toujours considéré que ces djihadistes devaient être jugés par la justice irakienne dans la limite de condamnation à perpétuité et rejetant la possibilité de condamnation à mort.
Olivier Poujade, deux hauts responsables irakiens, dont le président Bahram Saleh, nom de cesse ces derniers jours de s'inquiéter des coups de menton américains. Il y a danger et ils n'ont rien dit d'autre à leur hôte du jour, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, qui est venu à Bagdad avec une proposition, celle d'un pacte de non-agression à négocier avec ses voisins du Golfe. Bonsoir Houcham Daoud.
Bonsoir.
Houcham Daoud, anthropologue au CNRS. Houcham, quelle carte exactement a joué Zarif à Bagdad ? À qui s'adresse-t-il et avec quelle requête ?
C'est une carte d'apaisement en direction des pays de Golfe en disant, bah, écoutez, la tension est au maximum, peut-être nous pouvons un petit peu jouer la désescalade assortie d'un accord possible de non-agression entre l'Iran et les pays de Golfe. Seulement, la tension est à l'apogée, il y a des sanctions qui font sentir en Iran, il y a aussi quelques bruits de bottes, et les gens craignent, le monde craint un peu que la chose dérobe et ça devient un conflit chaud ouvert. Et bon, la proposition iranienne, c'est pas un peu tard? Voilà la question qui était posée. Et pourquoi être lancé depuis Bagdad aussi?
Alors, quelle carte joue cette fois l'Amérique de Donald Trump? Vous parliez à l'instant de bruit de bottes.
Écoutez, il y a la pression maximale au niveau militaire et il y a les sanctions économiques qui font sentir à l'intérieur d'Iran beaucoup, beaucoup de difficultés par rapport au pouvoir iranien sur le plan politique, social, économique et mécontentement. Et l'Iran essaye de contenir cette pression, que ce soit à l'intérieur du pays que dans la région. Bon, et Zarif, il se débarque en Irak déjà pour lancer cette proposition, mais deuxièmement, probablement de mettre en garde les Irakiens, que c'est vrai, l'Irak, il se trouve un peu pris en tenaille entre Téhéran et Washington, les deux alliés inconciliables, et les deux, ils font des pressions sur Bagdad. Or, Bagdad essaie de dire, écoutez, je peux jouer le rôle de postier, mais ne me poussez pas de prendre de part et d'autre.
Et Houcham Daoud, est-ce qu'il est pertinent de dire, d'avancer, que c'est l'Irak qui est dans la position la plus fragile dans la région ?
Bien évidemment, l'Iran est très influent à l'intérieur de l'Irak, à travers des alliés, des milices, une présence directe, une frontière longue, et bien sûr aussi de l'autre côté les États-Unis, qui est l'allié depuis 2003, qu'ils ont fait shooter Saddam Hussein, ils ont amené l'élite actuelle au pouvoir, ils ont quelques 5000 militaires à l'intérieur de l'Irak, l'ambassade la plus importante, et Trump a pris une décision hier d'envoyer un renfort de 1500 soldats, il semble, Il semble qu'ils seront essentiellement en Irak. Donc Téhéran voit cela d'un mauvais œil. Il essaie de dire aux Irakiens, bah, écoutez, ne soyez pas contre nous. Jouer un rôle qui peut être favorable à nous, mais pas de côté de Washington directement ou ouvertement contre nous.
L'administration Trump, je reviens à ce pacte de non-agression que M. Zarif propose en tout cas à la négociation avec ses voisins du Golfe, l'administration Trump n'ignore pas que le Golfe est divisé. Enfin, tous les pays du Golfe n'ont pas la même position, n'ont pas le même positionnement dans cet écheveau.
Tout à fait. Sur les 5 ou 6 pays de Golfe, la principauté, essentiellement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont au point pour en découdre avec Téhéran. Tandis que le Koweït est dans une position un peu peureuse, essaie d'écarter le conflit, la guerre, et on monte tout à fait au sud pour dire, ben, je resterai un peu à part, jouer le rôle de médiation, un peu la Suisse de pays de Golfe. En revanche, le Qatar, qui est l'enfant terrible de pays de Golfe, il joue ouvertement de côté de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, en remontant la pression politique pour dire qu'il y a une alliance non avouée entre Tel Aviv et Riyad contre une autre nation islamique qui est l'Iran.
Alors, dernier point, Houcham Daoud, je rappelle que vous êtes anthropologue au CNRS. Cette escalade verbale doublée d'une montée en puissance des dispositifs militaires peut-elle conduire à la guerre?
Oui, il y a trop de forces et trop de militaires dans la région, trop de tensions, de conflits non résolus depuis un moment et surtout manque de confiance. Un accident de part et d'autre, comme c'est passé il y a quelques jours, il y a quelques semaines concernant le bateau où le Houthite, ils ont envoyé des drones contre l'Arabie Saoudite au niveau de Jeddah. Donc, un accident un peu plus important, conséquent, il peut amener à, pourquoi pas, à un conflit. Mais pour l'instant, ni Washington ni Téhéran, il veut pousser au conflit, mais il utilise la pression au maximum pour venir à la table de négociation. Les Iraniens, ils veulent négocier pour gagner de temps. Les Américains, ils veulent négocier pour faire plier Téhéran.
Bien, merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation, Houcham Daoud. Je rappelle que vous êtes anthropologue au CNRS. Restons dans la région. En Turquie, le chef historique de la rébellion kurde, Abdullah Öcalan, a appelé ce matin à la fin d'une grève de la faim suivie par des milliers de prisonniers. Ces derniers protestaient contre les conditions de détention du leader du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, emprisonné depuis 20 ans. Malgré l'isolement quasi total auquel il est soumis, Abdullah Öcalan reste une figure essentielle pour les Kurdes en Turquie, mais aussi en Syrie. Que cherche Ankara en rompant son isolement? À Istanbul, des éléments de réponse avec vous, Anne Andlauer.
Dans le message qu'il envoie par l'intermédiaire de ses avocats, Abdullah Öcalan estime que les grèves de la faim ont atteint leur objectif et doivent cesser. C'est donc un appel clair aux quelques 3000 détenus qui, depuis plus de 6 mois pour certains, avaient arrêté de s'alimenter pour dénoncer les conditions de détention du leader kurde sur l'île prison d'Imralı, en mer de Marmara. Leyla Güven, députée du parti pro-kurde HDP qui avait initié le mouvement, a annoncé dans la foulée qu'elle cessait sa grève de la faim. Après 8 années d'isolement et plus de 800 demandes de visites rejetées, les autorités turques ont laissé Abdullah Öcalan voir ses avocats 2 fois depuis le début du mois de mai. L'appel du chef du PKK implique qu'il a reçu des garanties que ses visites allaient se poursuivre, du moins dans l'avenir immédiat. Mais le fait que l'État turc, le président Recep Tayyip Erdogan précisément, autorise ce retour d'Abdullah Öcalan dans le débat public suscite des interrogations sur les intentions des autorités. S'agit-il simplement d'une opération séduction à l'approche d'élections municipales cruciales à Istanbul, où les électeurs kurdes vont jouer un rôle clé, ou s'agit-il aussi et surtout d'un premier pas de la Turquie pour sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve face aux combattants kurdes en Syrie? Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de négociations, mais plusieurs médias locaux font état de rencontres ces dernières semaines entre des agents des services de renseignement turcs et de hauts responsables kurdes syriens.
Près de 700 habitants du sud du Pakistan ont récemment contracté le virus du sida, contaminé pour certains d'entre eux par des seringues usagées. 537 de ces victimes, l'infrastructure dans un état épouvantable, sont des enfants de moins de 12 ans. 3 fidèles ont été tués dimanche lors d'une nouvelle attaque contre une église catholique à Toulfé, une localité du nord du Burkina Faso. Il y a un peu plus d'une heure, seconde salve d'estimation du taux de participation aux élections européennes pour la France, 19,20% à midi, à 17h, 43,29% contre 35,07%, soyons précis, à la même heure en 2014. Bonsoir Yves Bardon.
Bonsoir.
Vous êtes d'Ipsos, Soprasteria, notre partenaire. L'avez-vous vu venir, cette participation à la hausse lors de vos récentes enquêtes?
Oui, tout à fait. On l'a vu monter progressivement ces dernières semaines, vague par vague. On a 2 indicateurs intéressants à suivre. D'une part, les intentions de vote et d'autre part, la sûreté du choix. C'est-à-dire, est-ce que les gens peuvent encore changer ou pas? ces deux indicateurs ont progressé simultanément. Évidemment, pas avec la même intensité selon les affinités politiques.
Quelle signification d'ores et déjà prêtée à cette participation à la hausse? Restons humbles.
Ben, c'est d'abord un score historiquement élevé qui peut s'expliquer par différentes raisons. La première, c'est la première consultation depuis la présidentielle et les législatives de 2007. Donc traditionnellement, c'est le moment d'un bilan. On est dans un contexte de recomposition du paysage politique depuis 2006-2007 avec la naissance de l'AREM. Et on est aussi dans un contexte où les anciens partis se sentent un peu dépossédés du champ politique. C'est pour ça que on a une mobilisation, et cette mobilisation, elle appelle évidemment deux questions. Est-ce que c'est le match des votes utiles? Ou est-ce que c'est une nouvelle chance qui est donnée aux partis traditionnels?
Et est-ce qu'on est dans une espèce d'approche manichéenne, un peu bipolaire, la République en marche face au Rassemblement national, ou est-ce qu'alors il y a une distribution des voix?
Eh bien, à l'instant, on ne peut pas répondre, mais la polarisation qui a été voulue par le président de la République en positionnant l'enjeu entre les progressistes et tous les autres comme étant au cœur de l'élection va être validée ou sanctionnée.
Bien, merci à vous Yves Bardon. On vous retrouve évidemment à partir de 20h dans la soirée spéciale élection européenne dont parlait Julie Gacon, aux Subsistances à Lyon où se tiennent les Assises internationales du roman Olivia Jesbert avec ses invités, puis dans ce studio à Paris, Benoît Bouscarel avec vous Yves Bardon pour résultats, commentaires et reportages. Soirée élection européenne entre 20h et 22h15. Ce sont des estimations, encore quelques données à vous livrer. Les conservateurs allemands de la CDU-CSU remporteraient les élections européennes avec 28% des voix. C'est un sondage sorti des urnes. Ce sont des estimations avec des Verts allemands à plus de 20%. Puis en Autriche, les conservateurs du chancelier Kurz seraient en tête avec un FPE, donc l'extrême droite, en troisième position. Un attelage XXL dans l'automobile, probablement annoncé demain. Le français Renault et l'italo-américain Fiat Chrysler pourraient bien détailler sous peu les termes d'une alliance lors d'un conseil d'administration. Bonsoir Thomas Al-Arabi.
Bonsoir Mathieu.
Thomas, quelles pourraient être les conséquences de ce rapprochement?
Eh bien, tout va dépendre de l'ampleur de cette coopération qui peut aller du partage de technologies à la fusion. Mais si Fiat Chrysler venait à intégrer l'alliance Renault-Nissan, ce serait un grand coup de tonnerre dans l'industrie automobile mondiale. Cette alliance, avec environ 15 millions de voitures vendues par an, sera le numéro 1 incontesté, très loin désormais devant Volkswagen et Toyota. Et puis d'un point de vue technologique, le mariage semble complémentaire. Renault a pour lui ses compétences en matière de véhicules électriques, quand Fiat Chrysler bénéficie d'une expertise côté SUV, pick-up, et est bien implanté dans le marché américain. Cependant, Mathieu, plusieurs obstacles demeurent. Tout d'abord, la réticence des gouvernements. L'État français, actionnaire principal de Renault, s'était déjà opposé à un tel rapprochement il y a quelques années. Et puis un second obstacle pourrait être Nissan. Carlos Ghosn était la clé de voûte de l'alliance entre Renault et le constructeur japonais. Il espérait même les voir rapidement fusionner. Son arrestation et son éviction en novembre dernier ont clairement créé des tensions au sein de l'alliance. Nissan reproche notamment à Renault de prendre trop de place dans les décisions stratégiques. Les Japonais auront donc leur mot à dire. Quoi qu'il en soit, le grand perdant se nomme a priori PSA. Le groupe s'était déclaré intéressé par un rapprochement avec Fiat Chrysler. Il a vraisemblablement mis trop de temps à dégainer.
Merci à vous Thomas Larabi. Un chauffeur de VTC a été agressé et dépouillé parce qu'il était juif dans la nuit de mercredi à jeudi, information que l'on doit à France Bleu Paris. Les faits se sont produits à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour vol avec violence en raison de la religion. Quelques mots de la météo de demain lundi. Un temps maussade sur la Corse ainsi que du sud-ouest au nord-est. Du nord au nord-ouest, après une matinée très nuageuse avec quelques gouttes, les nuages laisseront percer de belles éclaircies dans l'après-midi sur le reste du pays. Ciel chargé tout au long de la journée. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia.